Vous avez pu envoyer des gens? Ouais.
Bonsoir,
Donc, c'était
bonsoir à tous. C'est
35,
toujours un
c'était un
plaisir de vous
peu
retrouver
super
pour
long.
cette émission où on a encore de très très beaux invités cette fois-ci. Comme d'habitude, David Calfon de Senso sera avec nous. On va être rejoint tout en début d'émission par Julien-Pierre Nouen de Lazare Frères qui nous parlera des obligations et aussi du fonds qu'il gère. On aura bien entendu Julien Milakiewicz de Wellins qui participera aussi. Et ensuite, on aura l'équipe de Sycomore pour un fonds sur la technologie
Nous aussi,
avec
d'ailleurs,
David Rainville, le gérant, et Nicolas
et il
Penel
le prend surtout, il en prend des
qui
bouquins.
s'occupe de la relation avec les cabinets. Julien Pierre, c'est à vous. On démarre tout de suite. Donc, vous êtes gérant du fonds Lazare Patrimoine, un fonds que nos auditeurs connaissent très, très bien. Vous venez régulièrement nous voir depuis 3 ans. Ce fonds est présent dans nos allocations d'actifs dans les cabinets. C'est un fonds prudent. L'année dernière, il a eu un parcours un petit peu compliqué, peut-être même un peu décevant. Cette année, on est autour de zéro. Vous allez nous en dire plus. Et donc, ce qui nous intéresserait beaucoup de savoir, c'est juste pourquoi l'année dernière, le parcours a été un petit peu décevant. Est-ce que cette année, on doit s'attendre à une bonne année, un bon redémarrage? Voilà, qu'est-ce qui vous a freiné? Qu'est-ce qui pourrait vous développer? Je vous laisse la parole et on vous
Il
écoute.
a avec le mouvement.
Merci Bernard. Bonjour à tous. Donc effectivement, l'année dernière, la performance a été un petit peu décevante. Faut bien comprendre ce qu'on essaie de faire avec le fonds Lazare Patrimoine SRI, c'est d'avoir à chaque moment l'allocation d'actifs la plus en ligne avec notre lecture de l'environnement économique. Et notre lecture de l'environnement économique en début d'année 2023, c'était que le cycle de resserrement monétaire exceptionnellement rapide et de grande ampleur que les banques centrales étaient en train de mettre en œuvre allait à un moment faire basculer les économies en récession. Et donc on avait positionné le fonds de cette manière, de manière cohérente avec cette lecture, un positionnement très prudent. Au début de l'année 2023, on était encore protégé contre les hausses de taux et ce qu'on avait fait à partir au printemps, parce qu'on avait eu les problèmes des banques américaines, on commençait à avoir un certain nombre d'indicateurs économiques qui allaient dans le sens d'un basculement de l'économie en récession. On avait enlevé ces protections contre les hausses de taux. Et c'est vrai que la résistance de l'économie américaine sur la deuxième partie de l'année a amené une remontée des taux qui a pesé sur la performance du fonds. Alors en fin d'année, les marchés se sont mis à anticiper davantage de baisse de taux et donc ça a permis au fonds de rattraper une bonne partie de sa performance et de se rapprocher. Alors on est resté sur une performance décevante, mais de se rapprocher de zéro. Et donc ce positionnement prudent, il nous a clairement coûté sur l'année dernière. Par ailleurs, c'est vrai qu'on a une faible exposition aux actions, hein, parce que lorsque vous avez une récession, normalement, les actions sont très pénalisées. Et c'est donc pour ça qu'on avait ce positionnement très prudent. Alors aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? On pense qu'on est dans un environnement économique qui reste compliqué. Hein, on est peut-être, on n'a encore pas eu tous les effets des hausses de taux, mais ce qu'on voit quand même, c'est certains indicateurs qui.
Allô, vous m'entendez?
Allez-y, continue.
Oui,
C'est
voilà.
le petit problème du direct.
D'accord. On a certains indicateurs qui nous disent voilà que il y a un peu de mieux en termes de croissance. Alors rien de très très fantastique. Hein. On est vraiment sur du passé, on va dire, lorsqu'on regarde les chiffres européens, de 0 moins à 0 plus. Voilà. Donc ça nous amène à remonter un petit peu l'exposition au risque dans le portefeuille. Des choses qu'on a faites sur les dernières semaines. Donc, sur la poche crédit, on a remonté un peu la poche obligataire, on a remonté un peu l'exposition aux obligations plus risquées et on a racheté un peu d'actions. Voilà. Donc, on pense qu'on est dans un environnement qui va amener de la volatilité. Hein. C'est vrai que les marchés ont commencé l'année avec les lunettes très, très roses. Ça pourrait continuer, et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, mais on voit quand même que toutes les questions économiques pour nous ne sont pas résolues, notamment la question de l'inflation. C'est vrai qu'on a des banques centrales qui sont très confiantes sur le fait qu'elles vont pouvoir baisser les taux sur la deuxième partie de l'année. C'est sans doute probablement le cas en Europe, hein, avec notamment l'économie allemande qui est en récession. Aux États-Unis, ça sera peut-être plus compliqué. Et après, je vais m'arrêter là parce que ma réponse est déjà longue. Et plus globalement, la question qu'aujourd'hui, nous, on se pose, c'est est-ce que cette question de l'inflation, elle est vraiment résolue? Parce que on a voilà, un ralentissement qui a été clair, qui est très concentré en fait sur les prix des biens, mais les prix des services continuent de progresser à un rythme soutenu. Et donc, ce qu'on pourrait voir, c'est avec des banques centrales qui vont plutôt dans le sens de baisse de taux, des conditions financières qui se sont nettement améliorées, donc un regain de croissance, et un regain de croissance qui pourrait générer une deuxième vague de poussée inflationniste. Et donc, c'est
Alors,
pour ça qu'on...
est-ce que le sujet, c'est vraiment l'inflation? Et est-ce qu'il faut analyser l'inflation comme on a analysé il y a 5 ans ou il y a 10 ans? Aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, même si c'est peut-être un gros mot, l'inflation, alors bien sûr, pas l'hyperinflation, mais un petit peu plus que prévu, ça arrange tout le monde. En réalité, on a un objectif dans la zone euro de 2% d'inflation. Donc, bien sûr que tout le monde va prétendent à cet objectif, puisque c'est la loi, et ce n'est pas les hommes politiques ou ceux qui émanent des grandes instituts publics qui vont aller contre la loi. Mais en réalité, 3% d'inflation, ça arrange tout le monde. Ça arrange tout le monde. Alors celui qui perd, c'est le salarié qui n'arrive pas à avoir une augmentation de salaire de 3%. Mais globalement, là aussi, quand on regarde les hausses de salaire qu'il y a eu, elles sont assez cohérentes et elles n'ont pas laissé beaucoup de gens sur le carreau, même s'il y a pu avoir quelques perdants. Et donc, je me dis que ils vont baisser les taux. Si ça relance un petit peu l'inflation, ben ils les remonteront à nouveau. Mais globalement, ça arrange tout le monde, cette inflation.
Alors, cette inflation, elle arrange pas tout le monde. Il faut quand même garder à l'esprit que voilà, les gens qui ont des revenus fixes, l'inflation, ils la prennent quand même de plein fouet. Alors, il y a des indexations, mais qui viennent souvent avec du retard. Et lorsque vous regardez, par exemple, en Europe, l'évolution des revenus salariaux corrigés de l'inflation sur les 4 dernières années, le compte y est pas. Les ménages n'ont pas récupéré tout ce qu'ils ont pu perdre en termes
Ça,
de
c'est quand on
pouvoir
prend
d'achat.
uniquement les salaires. Mais si on rajoute les boucliers, les aides,
Alors,
toutes les choses qui ont été faites, on en est où?
là, les données que je regarde portent effectivement sur les salaires, mais globalement, alors ce qu'on voit sur la zone euro, c'est que la consommation a plus ou moins tenu. Mais en fait, pour moi, la question, elle est surtout savoir effectivement, bon, on va peut-être revenir vers la cible, mais si on loque comme point bas la cible d'inflation de la Banque centrale, ça veut dire que toute réaccélération, bah, elle nous ramènera au-dessus. Et ça a forcément des conséquences aussi en termes de taux d'intérêt à long terme, donc de coûts de financement pour les États. Hein. La contrainte budgétaire, elle est en train de revenir de manière assez notable dans les pays européens. Et le
Attendez,
problème,
je vais vous interrompre là, parce qu'il y a quand même une question que je vais vous poser. Donc, pratiquement tous les gérants qui viennent, ils nous parlent de ça, de la dette et de la contrainte sur les États. Et cette dette, elle est inremboursable. Elle est inremboursable. Donc, je ne sais même plus comment on peut la qualifier de dette. On voit Bruno Le Maire qui annonce qu'il va faire 10 milliards d'économies et qu'il va en faire 20 milliards, et on voit très bien que déjà, il ne va même pas y arriver. Alors qu'on a un budget en déficit de je ne sais pas combien de dizaines de milliards, mais plus que 100 milliards, et qu'on a un déficit accumulé, je ne veux même pas dire le chiffre, parce que ça va nous donner mal à la tête à tous. Donc cette dette, c'est aussi en train de devenir un faux sujet, ou c'est en train de devenir plus le sujet. Enfin, je vois aujourd'hui dans la presse, avec les élections qu'il y a eu au Portugal, tout le monde est super content pour le Portugal. Enfin, les économistes sont tous vraiment aux anges pour un pays qui a réussi à descendre à 100% de PIB de la dette avec des efforts qui ont mis en souffrance toute la population pendant 8 ans. C'est en train de devenir une arlésienne, cette dette, non?
Alors, je ne pense pas parce que c'était en train de le devenir jusqu'à récemment parce qu'on avait des taux d'intérêt qui étaient orientés structurellement à la baisse. Donc, Finalement, vous pouviez avoir un volume total d'endettement qui augmentait et une charge d'intérêt qui était stable, voire en baisse, parce que vous reliez, vous étiez le trésor français ou italien, renouveler des obligations qui avaient été émises à 4-5% par des obligations qui étaient émises à 1-2%. Donc, même si vous en émettiez un peu plus, bah, vous, au final, votre charge d'intérêt baissait. Là, aujourd'hui, on a des charges d'intérêt qui sont en train de devenir potentiellement les premiers budgets des États. Et on a un cadre européen quand même à respecter. Alors, il a été un peu, il est en voie d'être un peu assoupli, mais il y a quand même voilà, des contraintes budgétaires qui vont réémerger dans la plupart des pays européens.
Est-ce que vous pensez que techniquement, c'est possible qu'un pays comme la France redescende aux objectifs européens? Donc les objectifs européens, c'est 60% du PIB. Alors, on ne va pas dire en un an, parce que là, c'est impossible, mais est-ce que c'est possible, par exemple, en 10 ans ou en 15 ans? Est-ce que techniquement, vous pensez que c'est possible, en sachant qu'un État gagne de l'argent grâce à la croissance et aux impôts, que si on monte les impôts, on impacte la croissance, et que si on demande trop d'efforts aux gens, on se retrouve avec une population dans la rue? Est-ce que vous, là, je ne vais même pas vous demander un point de vue politique, mais juste un point de vue technique. Est-ce que vous pensez que techniquement, c'est possible qu'un État comme la France, en 15 ans, revienne à 60% et donc avec une orthodoxie budgétaire dans les clous?
Alors, en 15 ans, sans doute pas, parce que ça serait un choc, une demande trop brutale. Mais par contre, la question, c'est une question de tendance, c'est-à-dire montrer que d'abord, on se réoriente sur une trajectoire baissière, parce que ça remonte, ça montre voilà, ce qu'on va appeler un sérieux budgétaire. Donc, on se remet sur une trajectoire baissière. Les demandes maintenant de l'Europe sont quand même moins strictes en termes de trajectoire de la dette que ce qu'elles étaient auparavant. Hein. L'idée, c'est plus d'étouffer la croissance comme on l'a malheureusement fait après la crise de la zone euro, mais quand même de se remettre sur des trajectoires baissières. Donc 10-15 ans, c'est même pas souhaitable parce que voilà, dans les arbitrages à faire entre croissance et niveau du déficit, ça irait trop fort dans un sens et au détriment de l'autre. Après, voilà, se mettre sur une trajectoire baissière, bah, d'autres pays l'ont fait, c'est faisable, mais effectivement, ça demande des mesures importantes.
Parce que tout à l'heure, vous me disiez que avec de l'inflation, je vous disais en fin de compte, elle arrange tout le monde. Vous me disiez non, ceux qui ont des revenus fixes, ils ont plutôt perdu malgré les indexations, mais ils ont perdu, c'est infinitésimal ce qu'ils ont perdu par rapport aux efforts qu'on a demandé aux Portugais sur les 10 dernières années pour commencer à avoir un budget équilibré et avoir donc l'état d'endettement baissé.
Oui, mais après, voilà, sur cette question de l'inflation, il y a aussi le risque de dérapage des anticipations. C'est-à-dire que si l'inflation s'installait durablement, aujourd'hui, les anticipations voient l'inflation, lorsqu'on interroge les ménages et les entreprises, revenir à la cible, parce que les banques centrales ont fait ce qu'il fallait pour. Si on s'installait durablement sur du 3%, bah les ménages et les entreprises nous diraient bah non, en fait, le niveau moyen de l'inflation, ça va plus être 2, ça va être 3. Et donc, vous avez cette espèce d'effet cliquet qui peut se mettre en place et générer des dynamiques beaucoup plus inflationnistes dans la durée. Alors, évidemment, ce n'est pas à l'horizon de 6 mois, mais voilà, sur la durée, vous créez quand même un risque de dérapage des anticipations. Et donc, ça rentre dans les calculs économiques, et là, vous pouvez potentiellement refaire des choses comme les années 70, parce que les gens se disent, non, mais l'inflation, c'est minimum 3%, donc je veux que chaque année, mon salaire augmente d'au moins 3%, et donc vous créez de l'indexation, et c'est pour ça que les banques centrales veulent éviter de revenir sur ce genre de dynamique.
D'accord. Pourtant, il y a des pays qui font partie de l'Europe, hein, comme par exemple le Luxembourg, où il y a une indexation automatique des salaires sur l'inflation. automatique et elle est légale, hein, de droit. Donc,
Oui,
dès que
oui.
l'inflation est calculée, 3 mois après, on indexe.
Oui, alors après, le Luxembourg, c'est quand même une économie très spécialisée. Donc, effectivement,
Et
c'est
c'est
une
vrai que c'est un petit
situation un peu
pays.
particulière. Et c'est un petit pays qui, en plus, a des finances publiques plutôt en très bon état. Donc, la situation est un peu différente.
D'accord. Alors, dernière question. Donc, sur le fond, de la manière dont il est organisé aujourd'hui et de la manière dont il est fait, quels sont les points que nous, investisseurs, on a à surveiller, c'est-à-dire qui nous donneraient les bonnes nouvelles? Vous avez besoin d'une baisse des taux, vous avez besoin d'une hausse des actions. Si vous pouviez nous dire, voilà,
Ouais.
surveillez ces trois choses. Si ces trois choses arrivent, c'est même pas la peine d'aller regarder le fond, il monte.
Alors, ce qu'il faut aujourd'hui, bah, c'est sur les taux européens une baisse. Donc aujourd'hui, effectivement, ça serait un facteur favorable. Poursuite de la réduction des marges de crédit sur le crédit en Europe. Et c'est vrai qu'on voit aujourd'hui sur les marchés obligataires, il y a beaucoup de demandes pour tous les actifs de crédit. Donc exerce une pression plutôt baissière sur les spreads. Sur les taux américains, là récemment, on a remis en place des positions à la hausse des taux, parce que voilà, on pense que cette question de l'inflation, cette économie américaine reste quand même très résistante. Sur les actions, on a réduit notre sous-exposition, mais on reste un peu sous-exposé. Et on a pris des positions aussi sur les devises. Par exemple, on s'est positionné pour l'appréciation du yen. On voit que la banque centrale japonaise s'approche peut-être d'une sortie de sa politique de taux négatif.
Négatif, ouais.
Et donc, on pense que c'est plutôt favorable à une appréciation du yen. Et donc, le fonds s'est positionné pour ça. Donc, c'est vrai qu'on reste aujourd'hui sur un fonds parce qu'il y a cet environnement complexe avec une dominante obligataire, mais on a plus de portage déjà aussi. Plus de portage, aujourd'hui, on a un portage qui est autour de 4%. Et donc, baisse des taux en Europe, baisse des taux aux US. Ce qui pourrait arriver, hein, c'est vrai on voit de plus en plus cette idée que la BCE pourrait baisser ses taux avant la Fed.
Ce serait pas anormal, hein. On n'a pas de croissance. Il y a de la
Voilà,
croissance aux États-Unis.
la différence, c'est qu'effectivement, aux États-Unis, on a une croissance forte sur les derniers trimestres. En Europe, on stagne depuis 18 mois. Et même si on regardait au deuxième chiffre après la virgule, le PIB s'est contracté, sur les 2 derniers trimestres.
Et allez, j'avais dit que c'était la dernière question, mais j'en ai encore une pour rebondir sur une des choses. Ce yen et ce Japon, c'est pas paradoxal. Leur indice boursier, il est en record historique. Leur monnaie, elle est extrêmement haussière et leur dette, elle est abyssale.
Alors, il y avait un grand économiste qui disait qu'il y avait, dans les années 60-70, il y avait 4 types d'économies. Il y avait les économies capitalistes, les économies communistes, et il y avait le Japon et l'Argentine. Et le Japon, c'est vrai que c'est une économie un peu particulière. D'abord, cette dette, elle est détenue essentiellement de manière domestique, aujourd'hui aussi grandement détenue par la Banque centrale, hein. Donc après, on est dans le domaine des jeux d'écriture.
Et
On
nous, en
voit quand
Europe, no notre dette en France et notre dette européenne, elle est aussi grandement détenue par la Banque centrale.
Oui, mais dans des proportions moindres. Et quand on voit par exemple un pays comme la France, sa dette est beaucoup détenue à l'international. C'est vrai que beaucoup de banques centrales qui souhaitent investir leurs réserves en euros sont des clients de la dette française. Et donc on a cette économie japonaise qui est quand même en train de changer aussi, hein. Voilà, c'est une économie où la population, on le sait, est orientée à la baisse, mais qui affichait des gains de productivité qui permettaient en fait d'avoir une appréciation du niveau de vie. Des entreprises, et ce qui est peut-être plus intéressant dans le niveau boursier, des entreprises qui se souciaient assez peu de leurs actionnaires et qui commencent à s'en soucier de manière un peu plus forte. Et donc, ça se voit dans l'évolution des politiques de distribution, dans la manière dont les entreprises sont gérées, des croisements des participations croisées qui pouvaient exister entre les entreprises japonaises et voilà des entreprises qui ont un grand savoir technique et technologique dans certains secteurs. Et puis bah, effectivement il y a la question de la devise. Alors On a une banque centrale japonaise qui était la dernière à avoir des taux d'intérêt négatifs, qui donc n'a pas bougé alors que toutes les autres banques centrales remontaient leurs taux. Donc ça fait fortement baisser le yen. Là, on commence à parler de remontée des taux par la banque centrale japonaise. Donc le yen est effectivement sur une tendance un peu plus haussière. Et donc, ça sera, voilà, il y aura peut-être une phase d'ajustement, mais globalement, il y a quand même une histoire micro intéressante au Japon.
Eh bien, c'est sur ces mots qu'on s'arrête pour la présentation du fonds. On a largement débordé d'ailleurs sur un peu de macroéconomie. Donc, je rappelle le fonds, Lazard Patrimoine, un fonds mixte prudent, on peut le qualifier comme ça?
Oui, tout à fait.
Donc, un fonds mixte prudent et qui aujourd'hui, depuis le début de l'année, est autour de zéro. Voilà, c'est maintenant le moment de l'édito. Restez avec nous. Pardon, restez avec nous, Julien Pierre, et vous allez réagir à cet édito. Je me suis trompé. Dans l'une de nos précédentes émissions, je vous disais que le temps était venu de se tourner vers les fonds d'action de petite et moyenne taille en pensant à un réajustement. David répondait que même si c'était peut-être un peu tôt, le mouvement était en train de se constituer et qu'il ne fallait surtout pas vendre ces fonds small et mid. Résultat des courses, tout faux. Le CAC, depuis le début de l'année, est en hausse de 43%. Le CAC Small et Mid de seulement 2,66. Quant au CAC Small, il baisse de 1,39. Et je ne vous parle même pas de l'indice PA-PME qui baisse de plus de 5%. La faute à qui? À la macro. C'est la macro et la tech qui donnent le ton depuis plusieurs mois. Et cela ne va pas changer. Tout le monde est focus sur le niveau des taux, l'inflation et les autres grands agrégats. Les OPA ou autres opérations capitalistiques qui sont des moteurs pour les petites valeurs sont en panne. Et on regarde plus celles qui vont trébucher, voire chuter. Le très fort ralentissement de l'immobilier profite sans doute aux grands indices qui récupèrent une partie de l'argent qui sort de l'immobilier par le biais de la vente de parts de SCPI ou de SCI. Mais rien ne va vers les petites valeurs. Small is beautiful, but dangerous. Virage à 180 degrés et j'assume. Il faut en sortir et se repositionner sur les grandes valeurs et plus de croissance que value. Même si sur ce point, je suis moins affirmatif et je pense qu'il faut garder un équilibre. La transition énergétique, le réarmement et la relocalisation industrielle sont des tendances de long terme et elles profiteront bien à la value. Mais tout le monde sait que les acteurs de marché ont besoin de sensations fortes et ils vont les trouver dans l'IA et la tech. En fait, on revient à la bourse des années 90. Des obligations, des actions, des grands indices et du Nasdaq pour donner du peps. Là, j'ai simplifié à outrance, mais en le relisant, je me dis que je ne suis pas si loin que ça de la vérité. Voyons ce qu'en pensent nos invités. David, c'est à vous. Et alors, juste avant, David, que vous commenciez, Julien Pierre, je crois que de votre côté, des fois, il y a des bruits de fond qui arrivent. Donc, quand vous n'intervenez pas, essayez de couper votre micro
Très bien.
et vous le remettez quand vous intervenez. Alors, David, vous en pensez quoi? Vous êtes trompé avec moi? Ou pas autant que ça ou...
Bonjour, Bernard, je me suis trompé puisque effectivement j'avais. Alors effectivement, allez, je vais vous provoquer un peu, Bernard, moins que vous, puisque vous disiez d'acheter, moi je disais de ne pas vendre. Voilà. Mais effectivement, et j'ai envie de dire, oui, je me suis trompé, mais d'un autre côté, en essayant de me comporter comme un investisseur rationnel, j'ai encore du mal à vendre les small et mid caps sur les marchés cotés. Les small et mid caps traitent à peu près, on trouve des multiples à 5 fois l'EBITDA. Et ces mêmes petites sociétés, quand elles ne sont pas cotées, hein, quand elles ne sont pas cotées en bourse, les gens du private equity les achètent à 7, 8 fois. Et je me dis que, juste pour nos auditeurs, hein, quand vous rachetez quelque chose 7 fois au lieu de l'acheter 5 fois, c'est quand même une fois et demie le prix. Hein, donc voilà, ça fait beaucoup d'argent. Et quelque part, je me dis, c'est compliqué de se dire que la même société, quand elle est cotée en bourse, elle vaut vraiment pas cher, alors qu'elle est plus liquide. Et quand vous êtes collé avec la société pendant des années et que pour en sortir, ça va être compliqué, etc., là, elle vaut plus cher. Donc, j'ai toujours autant de mal.
Alors, moi, ce que j'ai
Mais je
envie de vous
reconnais
dire,
l'erreur, hein, voilà.
ce que j'ai envie de vous dire, c'est que, bon, sur les marchés, il y a deux choses. Il y a ceux qui pensent qu'il faudrait acheter ou vendre, et il y a ceux qui achètent ou qui vendent. Et en réalité, la valeur, elle est issue de ceux qui pensent Et on dit ça, de mon point de vue, ça devrait valoir 100. Mais le prix, il est fait par ceux qui achètent et qui vendent. Et ce qu'on a souvent remarqué sur les marchés, c'est que cette différence, elle existe régulièrement. Mais malheureusement, cette différence, elle peut exister pendant 5 ans, 6 ans, 4 ans, 3 ans. Et là, visiblement, avec les petites valeurs, tout ce que vous dites techniquement, c'est vrai, hein. Il y a même des métiers, et d'ailleurs, dans nos métiers, on nous achète beaucoup plus que cette fois l'EBITDA. Et les gens qui achètent, ils payent avec du vrai argent. Donc, ce sont des gens responsables. Ça fait 3 ans qu'il y a une sous-performance. On demandera à Julien Pierre tout à l'heure de nous confirmer ça parce qu'il suit ça de près. Ça fait 3 ans qu'il y a une sous-performance. Rien ne dit que la sous-performance, elle va finir demain juste parce que ça fait 3 ans que ça sous-performe. Alors, tout à l'heure, Julien Pierre, vous nous aviez dit, enfin, vous m'avez dit avant de commencer l'émission que vous ne partagez pas tout à fait mon avis. Alors, c'est ça qui nous intéresse. On va vous écouter. Bon, d'abord, comme nous, vous constatez la baisse. Ça, c'est une certitude. Comme dans vos fonds, il faut remettre votre micro parce que ça va être à vous de parler. Comme dans
Voilà.
vos fonds, il y a des small et des mid-cap, ça vous a impacté négativement, probablement l'année dernière. Et même peut-être en ce début d'année où ça vous a moins fait progresser. Et qu'est-ce que vous en pensez donc sur le constat, sur l'état actuel des choses et comment on en sort ou comment on pourrait en sortir?
Alors effectivement, je pense que il y a une histoire de flux, et c'est vrai que mine de rien. Lorsque les gens achètent des ETF, les ETF sont sur les grands indices qui sont plutôt sur les grandes capitalisations. Donc ça, c'est sans doute quelque chose qui a été au détriment des petites capitalisations. Après, c'est vrai que dans la durée, votre prix d'achat, c'est quand même un bon indicateur de votre potentiel de performance dans la durée. Et aujourd'hui, je suis tout à fait d'accord avec David sur le fait qu'il y a quand même une décote des petites capitalisations qui est assez notable par rapport aux grandes capitalisations. Et si on a, vous avez parlé tout à l'heure de, alors ça, je
Alors,
dirais.
attendez, je vous arrête. Il y a une décote. OK, c'est vrai, c'est clair, c'est net, précis. Et l'année dernière, il y avait une décote aussi. L'année d'avant, il y avait une décote aussi. Et l'année d'avant, il y avait aussi une décote.
Mais avant, il y avait
Surcote.
une
Ouais.
surcote par rapport aux grandes capitalisations. C'est vrai que je pense que toutes les questions macroéconomiques, les inquiétudes sur la macro également ont dû peser. Et donc, si vous avez, je pense aussi le fait que les banques, les petites sociétés sont plus dépendantes du financement bancaire. Et donc, dans le contexte de remontée des taux, où on a vu des durcissements des conditions d'octroi des banques, et des marchés pour le coup qui financent les grandes capitalisations qui étaient mieux orientées, ça a dû créer aussi jouer sur le différentiel. Et si on a une BCE qui s'oriente à la baisse des taux, bah ça faciliterait un peu la situation des petites capitalisations.
Donc vous,
Donc
ce que
voilà,
vous
donc
dites, c'est que si on a une baisse des taux en fin de printemps ou cet été, ça va être positif pour les petites capitalisations et donc on peut avoir une remontée des small et mid cap assez rapide.
Voilà, parce que les perspectives s'amélioreraient pour elle, et donc on aurait du mieux en termes de publication de résultats, qui est souvent dans la durée le principal moteur de performance des marchés actions.
D'accord. Julien, vous voulez dire un mot là-dessus? Donc,
Oui, bonsoir. Bonsoir Merlin, bonsoir à tous.
voilà.
Bah,
Comment
moi, ce
vous
que je
voyez un
vois
peu
du côté.
les flux? Déjà, est-ce que les clients Wellings, est-ce qu'ils vendent des small and mid-cap? Est-ce que vous voyez un mouvement de vente de small and mid-cap? Ou alors, est-ce que vous voyez un mouvement d'achat dans les nouveaux contrats? Ou alors, il n'y a pas de vente, mais il n'y a pas d'achat non plus? Comment vous voyez
Alors,
un
ils ne
peu
vendent
avec les
pas
flux rentrants?
pour le moment. Effectivement, moi, je ne suis pas analyste financier comme vous, donc je me mets toujours du côté du client final que je vois tous les jours, si je puis dire. Il n'y a pas de mouvement de vente sur les small ou les mid-cap pour l'instant, mais par contre, il y a un intérêt. C'est-à-dire que le client, il y voit quand même, comme vous l'avez dit, un point d'entrée qui est quand même attractif. Comme l'a dit votre intervenant précédent, le client, mais qui est déjà un client assez averti, qui va vouloir s'intéresser à cette classe d'actifs, il espère que la baisse des taux vont favoriser, que le point d'inflexion sur les taux vont favoriser les conditions de financement de ces opérateurs, et donc
qui va avoir un rebond qui va être là. Et le client, au final, il voit au-delà de ces valorisations trop faibles que certains acteurs commencent à s'y intéresser, des private equity, des industriels, des familles qui se lancent dans des opérations de rachat. Et pour des clients qui sont parfois des entrepreneurs qui ont cédé leur entreprise ou autre, ils sont particulièrement intéressés à ce segment parce que c'est des sociétés de niche qui, eux, pour eux, les small et les mid cap, ça représente pour eux des sociétés de niche qui sont beaucoup plus flexibles, qui sont beaucoup plus réactives pour s'adapter au contexte de marché, avec des dirigeants qui sont engagés et qui sont déjà actionnaires. Donc, pour une certaine typologie de clientèle, tout ce que je viens de vous dire fait qu'on a en tout cas une demande et un intérêt pour les small ou les mid cap, quand bien même, vous l'avez dit très justement, sur les 2 ou 3 dernières années, c'est pas ça qui a rapporté le plus. Mais par contre, on va s'adresser à des clients ou des investisseurs qui sont déjà un petit peu plus avertis que la moyenne, si je puis dire. Le client lambda, lui, va suivre les grandes tendances macroéconomiques et la gestion passive, et il va vouloir être sur de la gestion value.
Alors, je vais revenir vers vous, David, où on parlait un peu du prix et de la valeur, et vous me dites, une des raisons en me disant pour laquelle vous pensez qu'il ne faut pas sortir des small et mid-cap et qu'à un moment elles vont probablement se redresser, c'est vous me dites en private equity, on achète autour de 7, sur les marchés aujourd'hui, on est autour de 5, donc cette différence, à un moment ou à un autre, elle doit se combler. Et là, j'ai envie de vous dire. Pourquoi elle devrait se combler? Ce n'est pas du tout la même chose. Quand on est sur les marchés financiers, ce sont des gens qui possèdent un tout petit peu de pourcentage, voire de pourmillage de l'entreprise, qui vont acheter et les revendre à d'autres gens qui possèdent un tout petit peu de pourcentage ou un tout petit peu de pourmillage de l'entreprise, en se disant qu'ils vont faire une bonne affaire à horizon quelques jours, quelques semaines, quelques mois, et pour une partie très rare, quelques années. Quand on est dans le private equity, c'est un chef d'entreprise et c'est sa vente finale, c'est l'acte final, c'est la fin du livre. Il vend sa boîte et là, d'abord, il ne la brade pas, sauf s'il est obligé, mais autrement, il ne la brade pas et il va en regarder vraiment la valeur avec d'autres gens en face qui vont regarder vraiment la valeur, mais les autres qui vont regarder la valeur vont regarder la valeur sur ce qu'ils sont persuadés de pouvoir en faire dans 3, 4, 5 ou 6 ans. Et donc, c'est normal qu'on ait un upside. Et c'est normal que le private equity valorise toujours plus cher que le prix, comme une OPA. C'est-à-dire, chaque fois qu'on a une OPA, on a rarement vu des OPA, même si techniquement ça peut exister et qu'il y en a eu quelques-unes dans l'histoire. Mais les OPA, elles se font au-dessus du prix de la cotation de la veille. Et souvent, 40, 50, 60%, enfin souvent des très belles choses. Donc, tout ça, est-ce que c'est vraiment un argument qui plaide pour une remontée ou c'est juste la normalité?
Alors, je ne suis pas sûr, est-ce que vous avez. Alors, ça, c'est effectivement quelque chose qui va jouer en faveur, donc, quoi, pour justifier la thèse qu'effectivement, il n'y a pas de problème de valorisation sur les small cap cotés. Mais moi, je vais vous donner un autre argument, c'est que un actif liquide, c'est quand même, doit être plus valorisé qu'un actif illiquide. L'actif illiquide doit vous offrir une prime de valorisation, puisque vous êtes bloqué dans l'actif. Donc ça vient, alors, peut-être d'accord avec vous, hein, il y a certainement une prime de, j'ai envie de dire, pas de contrôle, mais en tous les cas voilà, d'investissement industriel, parce que vous allez avoir une influence, le fonds de private equity a généralement une influence sur le devenir de la société. Donc oui, vous avez certainement une prime associée à ça, mais vous devriez avoir une décote également d'illiquidité. Et c'est ça, on ne l'a pas du tout. Voilà. Donc y a ce premier point, déjà, cette relation entre marché coté et marché non coté. Et vous avez un deuxième point qui est assez aberrant, c'est les valorisations, donc grosse capi versus petite capi, puisque là encore, dans la hiérarchie, les petites capis, elles ont. Généralement, elles ont pardon, elles ont surperformé en fait la plupart du temps parce que justement elles rémunéraient cette prime de liquidité moindre. Or, la performance qu'on a eue des petites capitalisations, Elle est sous performance extrême depuis, donc vous l'avez justement dit, plus de 3 ans. Alors effectivement, ça ne veut pas dire que c'est pas parce que ça a sous-performé 3 ans que ça va s'arrêter de sous-performer. Mais à un moment donné, voilà, je dirais juste que l'élastique est en train de se tendre. Mais comme je le disais quand on a déjà eu ce débat il y a quelque temps. C'est un mouvement. Les mouvements sur les small caps sont des mouvements où il y a énormément de momentum. Et donc, on dit toujours, rater les premiers pourcents, c'est pas très grave parce que lorsque le mouvement s'enclenche, ça dure longtemps. Les cycles de surperformance et de sous-performance des small caps sont plutôt comme ça. Donc, voilà, effectivement, c'est pour ça qu'à l'époque, je disais pas il faut acheter, je disais juste, c'est pas la peine de les vendre, voilà, parce que vendre des small caps actuellement, bah c'est vendre un peu à la casse. Donc, si on peut tenir, moi je suis toujours d'avis de, si on en a, de les garder.
D'accord. Et Julien Pierre, alors sur un petit peu ces sujets, donc sur mes interrogations, en disant que c'est normal que dans le private equity, ça coûte plus cher, donc que ce n'est pas un argument qui plaide sur la hausse, la réponse de David avec les actifs
Du coup, je
liquides,
veux passer
illiquides. Vous positionnez de quelle manière sur ce sujet?
Alors, c'est vrai que sur les dernières années, il y avait ces primes à l'achat sur le private equity, hein, mais il y avait aussi des taux d'intérêt qui étaient aussi très très bas. Et donc, quand vous faites un LBO, consommez de la dette. Et donc, quand les taux d'intérêt étaient bas, bah ça poussait les acteurs aussi à payer plus cher. Voilà, bah je pense, comme beaucoup d'investisseurs, que le prix d'achat, ça reste quand même le meilleur garant de la performance dans la durée. Et
Alors, c'est
aujourd'hui.
intéressant ce que vous dites. Excusez-moi de vous couper, mais si les taux ont monté, ça veut dire que vous dites que les acteurs de private equity vont peut-être acheter moins cher parce que cette fois-ci, ils vont intégrer des frais financiers plus élevés. Et donc, on va réduire cette décote qui était une décote de 5 sur les marchés à 7 qui était achetée. Et donc, l'argument de David, il perd de la valeur, il perd du poids.
Alors, c'est peut-être aussi qu'on passera on restera à 5 sur les marchés et on passera à 6,5. Mais après, ce qui va être important, ce qui est important aussi, c'est la dynamique de résultats des entreprises. C'est-à-dire que là, on était quand même sur une période où il y a pas eu pas mal de révisions. Il y a eu quand même un cycle de stockage, déstockage qui a été assez fort. Et donc ces sociétés qui sont souvent plutôt des sociétés industrielles, bah, elles rentrent peut-être dans une phase un peu plus favorable sur les prochains trimestres.
Alors, ce que j'ai vu, moi, sur ces sociétés-là, ce que j'ai lu, c'est que, bon, maintenant, ça s'est un petit peu calmé, mais quand il y a eu pénurie d'emplois, elles ont été obligées de plus monter leur salaire, et la décote de salaire ou la différence de salaire entre les cadres ou des gens qui ont des vraies spécialités techniques des grandes entreprises et des petites entreprises, c'est réduit, parce qu'autrement, elles n'arrivaient plus à trouver les profils dont elles avaient besoin. Ça, c'est pas comme le salaire, c'est souvent une composante élevée des coûts. C'est pas quelque chose de très très favorable au profit. Alors que les grandes entreprises qui payaient toujours un peu plus, elles ont continué à payer un peu plus, mais elles n'ont pas de surcoût. Et c'est pas sûr qu'on voit les profits des petites entreprises se restabiliser ou s'améliorer comme ceux des grandes entreprises, ce qui pourrait encore laisser penser aux gérants que le moment, enfin aux gérants multiples, puisque ceux qui sont spécialisés n'ont pas trop le choix, mais que le moment n'est pas venu d'augmenter la pondération. Et comme vous avez le choix dans Lazard Patrimoine, c'est-à-dire que si vous voulez acheter des grandes valeurs, vous achetez des grandes valeurs, si vous voulez acheter des petites valeurs, vous achetez des petites valeurs. Donc là, c'est complètement ouvert. Aujourd'hui, dans votre réflexion, vous en êtes où? Vous montez la pondération des petites valeurs ou
Alors,
pas?
aujourd'hui, on a un portefeuille qui était essentiellement en grande valeur sur les actions, mais on a dans nos réflexions effectivement l'idée de monter les petites capitalisations, parce que donc il y a cette décote, il y a potentiellement et souvent on le voit hein, dans les mouvements boursiers, il y a un élargissement, c'est-à-dire qu'on commence sur quelques valeurs et après tendance va se déplacer vers d'autres segments du marché, des segments qui peuvent être en retard. On voit des indicateurs sur le secteur manufacturier qui vont quand même là, plutôt dans le bon sens, et donc c'est des choses qu'on est en train de regarder activement.
Ok, merci. Alors, nos invités de Sycomore nous ont rejoints. Bonjour David Rainville, bonjour Nicolas Pénel. Ça va
Bonjour
maintenant
Bernard,
être
hello.
à, voilà, ça va maintenant être à David Calfon de nous faire son point marché sur lequel vous serez amené avec tout le monde à réagir dessus. Donc David, sur les small cap et mid cap, si vous voulez conclure en une minute, faites-le. Et ensuite, vous enchaînez sur votre point marché. Et si pour vous tout a été dit, enchaînez directement sur le point marché.
Très bien, je vais peut-être rappeler à Julien Pierre qui peut mettre son micro en mute.
Ouais.
Pardon. Merci. Oui, non, non. Bon, sur les small, je pense qu'on a tout dit pour le moment. Ça reste un segment de marché qui est très compliqué, mais voilà, j'ai toujours un peu du mal à tirer sur l'ambulance, comme on dit. Bien, écoutez, on se retrouve maintenant pour notre chronique des marchés, ben, des marchés qui sont en pleine forme depuis le début de l'année, puisque les actions européennes sont en hausse de 10%, les actions américaines de 8%, les actions japonaises de 15%. Alors, ce qu'il y a derrière cette hausse, ben, il y a plusieurs facteurs qui expliquent ce comportement. On va regarder le premier. La politique monétaire. Alors, on se souvient que depuis novembre dernier, Jérôme Powell et la Fed a indiqué que le cycle de durcissement monétaire était arrivé à son terme et les marchés se sont précipités pour anticiper des baisses de taux. Alors, des baisses de taux nombreuses et rapides, puisqu'elles devaient intervenir dès le mois de mars. Depuis, les banquiers centraux ont habilement, et je dis bien très habilement même, décalé le consensus qui attend maintenant des baisses de taux à partir du mois de juin. Normalement, ce décalage d'anticipation aurait dû freiner les marchés. Moins de baisses de taux, moins de carburant pour alimenter le rallye. Mais il faut garder en tête la raison pour laquelle une banque centrale baisse ses taux. Généralement, s'il y a une baisse des taux, ce n'est pas pour faire plaisir aux investisseurs, ni pour permettre aux épargnants de gagner plus d'argent, mais bien pour relancer la croissance en période de récession. Je dis bien en période de récession. Or, nous avons vu ces derniers mois que l'économie mondiale a été beaucoup plus résiliente que prévu. Donc, la mauvaise nouvelle sur moins de baisse des taux a été compensée par la bonne nouvelle, moins de ralentissement économique. Donc, de ce point de vue-là, j'ai envie de dire match nul. On peut passer au deuxième point. Le deuxième point qui a été clé, c'est la dynamique bénéficiaire. En effet, en dehors de l'Angleterre et de la Chine, tous les marchés actions montrent des révisions de bénéfices en hausse. Ces hausses de bénéfices, d'ailleurs, ont permis aux multiples de valorisation de se maintenir sur des niveaux certes élevés, mais loin de la surchauffe. Je vais juste donner l'exemple d'une valeur qui défraye la chronique ces derniers temps, le titre Nvidia. Vous savez tous que ce titre a triplé en cours, hein, le cours de l'action a triplé depuis fin 2021. Eh bien, dans le même temps, son PER, hein, le ratio qui permet d'analyser sa valorisation, a baissé de 42%. Donc j'ai envie de dire, même si le cours a été multiplié par 3, l'action Nvidia est 42% moins chère qu'elle ne l'était il y a 3 ans. Donc voilà un peu, ça c'est, je dirais, sur l'analyse du passé. Maintenant, si on se projette un petit peu sur les mois à venir. On est quand même sur des facteurs techniques qui sont un peu tendus. Les indices enchaînent record sur record et c'est plutôt le moment où, encore une fois, pas par conviction, mais plus par discipline, c'est plus des moments où on a envie de prendre des bénéfices. Encore une fois, je ne parle pas de mouvement d'allocation d'actifs violents, je dis juste écrêter les positions. Juste pour se préparer au mouvement d'après. Un autre point dont je voulais parler à l'occasion de cette chronique, parce qu'on parle souvent des ETF, de la gestion passive, je voulais faire un point sur les indices actions et notamment un indice qui est très utilisé, qui est l'indice MSCI Monde. C'est l'indice des marchés actions internationaux. Et j'étais assez frappé de voir ce matin, en faisant ma revue des marchés, que le poids de l'Amérique du Nord dans cet indice approche les 75%. Nous sommes, pour être précis, hein, on est à 73% d'Amérique du Nord dans l'indice MSCI Monde. C'est donc trois quarts de l'indice investi sur actions américaines et Canada. On se rappelle qu'il y a 30 ans, la répartition Asie-Europe-US était une répartition qui était équilibrée. C'était un tiers, un tiers, un tiers. Là maintenant, on se retrouve avec un marché américain qui représente donc les trois quarts de l'indice. Alors, bien sûr, les facteurs derrière cela, croissance économique, croissance du PIB, nouvelles technologies, on peut en trouver d'autres, mais je pense que l'impact de la gestion passive et des flux a été déterminant dans cette divergence de poids entre les États-Unis et le reste du monde. Et on va se retrouver progressivement avec un problème de diversification, c'est-à-dire finalement, avant on se disait, je prends des actions internationales, comme ça mon portefeuille, il est bien diversifié, et plus le temps passe, plus moins il va y avoir de différence entre prendre un fonds action américaine et prendre un fonds action internationale. Alors, je me souviens de, juste pour l'anecdote, il y a quelques années, lorsque je travaillais chez Morgan Stanley sur les actions japonaises, c'était les années 2000, donc le Japon était en plein noyé dans ces périodes de déflation et de marasme économique. Et l'un de nos stratégistes avait sorti un papier qui s'appelait, en anglais dans le texte, The Irrelevance of Japan, c'est-à-dire le fait que le Japon devenait de moins en moins pertinent comme sujet d'allocation d'actifs, puisque finalement, on s'en fichait. J'ai envie de dire, est-ce que nous sommes en train de nous diriger vers The Irrelevance of the Rest of the World, donc le fait que finalement, le reste du monde, on n'en a pas grand-chose à faire, il suffit d'investir aux États-Unis et tout ira bien comme ça. Voilà, c'est sur ce sujet que je voulais lancer un petit peu le débat. Je dois vous dire que de mon côté, c'est une vraie préoccupation parce qu'à la fin, notre industrie est jugée par rapport à des indices de référence. Et si dans ces indices de référence, on se retrouve avec des problèmes de répartition d'actifs comme cela, comment gérer ça, comment réagir, comment conseiller des allocations d'actifs pour le patrimoine de clients, comment diversifier ses portefeuilles, tout simplement. C'est ainsi que je voudrais ouvrir ce débat, si vous le voulez bien.
Merci, merci beaucoup. Toujours très, très intéressant, David, et vous touchez toujours au point. Alors, c'est toujours compliqué de poser des questions sur le futur parce que ça fait un peu boule de cristal et globalement, ce n'est pas notre paradigme, ce n'est pas notre envie et ce n'est pas non plus ce qu'on veut laisser percevoir de nous. Mais sur les 20 dernières années, bien sûr qu'il fallait être aux États-Unis, qu'aux États-Unis, même pas regarder le reste. Et tout allait être tranquille. Et pourquoi? Parce que tout simplement, il y a 20 ans, c'était un tiers, un tiers, un tiers. Mais il y a 20 ans, le PIB par habitant, il était sensiblement égal entre les États-Unis et la France et l'Allemagne, enfin, et l'Europe. Et là, maintenant, je ne vais pas dire de bêtises, je n'ai pas les chiffres devant les yeux, mais je pense qu'ils ont pratiquement doublé par rapport à nous, les Français, un peu moins par rapport aux Allemands, puisqu'on s'est aussi appauvri par rapport à ça. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que, enfin, pour moi, il y a une seule et vraie raison. C'est, enfin, il y a peut-être deux raisons. Ils sont avant-gardistes dans leur culture. Ils ont une culture du lendemain. Et ils ont ce côté que les Chinois ont au jeu. Ils n'ont pas peur de miser de l'argent sur ce qu'ils pensent. Et donc, automatiquement, quand vous arrivez à convaincre quelqu'un aux États-Unis, enfin quand je dis quelqu'un, ça peut être un agrégat de personnes, une institution, des choses comme ça, que si on met de l'argent, on va gagner de l'argent, bah, ils y vont. Donc ils ont des idées, ils sont avant-gardistes, ils regardent le monde de demain et puis ils mettent de l'argent. Et donc ils ont inventé plein de choses comme ça. Et quand on dit qu'ils ont inventé plein de choses comme ça, en fin de compte, ce qu'ils ont inventé, c'est surtout la phase du développement, c'est-à-dire le fait de le développer, le fait de l'amener dans le monde, le fait de le pousser. C'est-à-dire que on avait, la France avait extrêmement bien compris l'enjeu de la communication. Elle avait, avec la téléphonie, avec le Minitel, avec les choses comme ça, mais par manque de moyens, par manque de désir, elle n'a pas su l'amener dans le monde. Et si je remonte en arrière, on peut avoir la même chose avec l'électricité, avec la photographie, avec tous ces sujets-là qui ont été découverts à peu près en même temps. Mais d'un côté, il y a un tel désir du lendemain que, bah, voilà, et puis il y a de l'argent. Et puis tout le monde, enfin tous les gens qui travaillent dans l'argent savent que l'argent appelle l'argent et qu'après on a un effet boule de neige et qu'on ne peut pas, on peut pas l'arrêter. Et quand on voit ces grosses sociétés de la technologie qui font la pluie et le beau temps, mais on peut aussi voir Amazon, voilà, c'est Amazon qui est devenu le leader, bon, à l'exception des Chinois, mais les Chinois, ils sont vraiment leaders que chez eux. Alors qu'en même temps en Europe, c'est ouvert à un grand nombre de sociétés comme ça. Et j'ai l'impression que pour le monde de demain, ça sera un petit peu la même chose, même si aujourd'hui, on a des sociétés dans l'intelligence artificielle extrêmement pointues en Europe, extrêmement pointues en Asie, mais qu'il va y avoir un effet massif de l'argent et un effet massif d'adhésion culturelle aussi, qui va faire que même si on se laissera moins faire que pour les GAFA, je ne suis pas sûr qu'on puisse prendre le lead. Donc voilà un petit peu le point de vue sur ce que vous dites. Alors on a la chance d'avoir David Rainville avec nous, qui est un gestionnaire d'un fonds technologique, donc dans ces sujets, il connaît bien. Donc je vais lui passer la parole, vous allez un peu réagir sur l'édito, nous donner votre point de vue. Alors, comme après, on présentera votre fonds, essayez de nous réserver vraiment les surprises pour votre fonds et là de donner un point de vue de spécialiste et non pas de gérant de fonds. C'est à vous, David.
Non, bien sûr. Merci Bernard et merci David. J'apprécie votre point de vue macro sur le marché et je dois vous avouer, je suis très d'accord avec tout ce que vous avez discuté, que ce soit la peur que on a en voyant le cours d'Nvidia, mais par contre, faut comparer à la croissance des bénéfices par action de la valeur dans la dernière année qui sont passés de 7 à environ 30 $. Pour les 12 prochains mois. Donc, oui, en effet, la valeur est moins chère aujourd'hui parce qu'on a cette vague massive de dépenses sur les puces d'IA. Donc, ça, c'est un sujet qui nous tient à cœur. Et dans le fond, quand on pense aux valorisations du marché, ils sont plus hauts qu'on aimerait, qu'on aime toujours acheter des trucs moins chers. C'est la nature humaine. Le collaborateur plus tôt parlait des points d'entrée, le prix d'achat étant la meilleure manière de s'assurer de la performance à long terme des valeurs dans lesquelles on investit. Et donc, le moins cher elle est, le mieux que c'est. Par contre, quelque chose qu'on trouve assez, qui est souvent oublié, et ça revient un petit peu au point Nvidia ici, c'est que en 2021, 2020 et 2021, on a eu un gros boom des dépenses technologiques des entreprises. On peut penser à Zoom, on peut penser à les compagnies de laptops, de PC qu'on a utilisés pour travailler de la maison. Et avec le pivot de la Fed en novembre 2021, il y a vraiment eu, on va la mettre entre quotation marks, mais il y a vraiment eu une récession dans la tech. Le reste de l'économie a quand même assez bien fait. Le consommateur aux États-Unis est quand même très, se porte très bien. Par contre, les dépenses technologiques, les budgets que les entreprises utilisent pour dépenser dans des serveurs, dans les nouvelles technologies que les entreprises utilisent, ont été coupés assez fortement en 2022 et 2023. Donc, pour nous, oui, les valos sont un petit peu plus hautes qu'on aimerait. Je pense que le Nasdaq est à environ à 22 fois le bénéfice par action pour l'année prochaine, ce qui est plus haut que sa moyenne de 10 ans d'environ 18-19 fois. Par contre, on croit que d'un côté cyclique, on se rappelle que la tech, c'est un marché qui est en croissance séculaire. On l'a discuté juste il y a quelques minutes. Mais vraiment, on est dans un point bas cyclique pour les dépenses de la tech qui sont en train de revenir tranquillement en 2024. Et on peut oublier l'IA, vraiment juste la normalisation des dépenses d'entreprise de la tech, ce qui va amener un cycle de révision à la hausse du consensus des bénéfices par action. Fait que pour nous, même si les multiples du Nasdaq, les multiples de la tech sont un petit peu plus élevés que l'histoire, qu'on a vu dans l'histoire dans les derniers 10 ans, on croit qu'il y a vraiment une histoire de révision positive des bénéfices par action qui, en fait, ce sera ça qui va, qui va améliorer la performance de la tech pour les prochains 2 ans, on croit, même si on achète un petit peu plus cher. Côté diversification et l'US qui prend de plus en plus d'espace dans les indices de référence, c'est un sujet qu'on doit dealer avec à tous les jours, nous, parce que, dans le fond, l'indice de référence de tech mondial est 82% US aujourd'hui, donc 20% Apple environ, 14% Nvidia et 16-17% Microsoft. Donc, ça fait des indices qui sont pas très diversifiés. Donc, pour nous, ça nous permet en étant un fonds UCITS, d'aller vraiment chercher des valeurs un petit peu plus de petite et moyenne capitalisation qui on croit à des meilleurs valos comparés aux GAFA, aux Magnificent Seven.
Okay, alors, je vais rebondir sur une chose que vous avez dit, David. Donc, vous avez dit, on aime toujours acheter moins cher. On aime acheter pas cher. Il y a très longtemps, quand j'ai commencé à travailler, j'étais allé à une conférence d'un gérant américain de technologie d'ailleurs. Et il disait, c'était début des années 90, et il disait, ce qui nous différencie, nous, de vous, les Français, c'est que vous voulez acheter pas cher en rêvant que vous allez vendre très cher. Et nous, les Américains, on achète cher en sachant qu'on va vendre encore plus cher. Et donc, c'est là-dessus que j'aimerais vous entendre, David, David Calfon. Cette fois-ci, on passe à David Calfon. Donc, sur ce truc, est-ce que ce n'est pas pour ça que cette économie américaine, elle s'est envolée et que nous, on est resté avec notre idée que pour faire une bonne affaire, fallait quelque part à l'entrée acheter pas si cher que ça pour ensuite vendre cher. Et ça me fait penser à beaucoup de commerçants, en fin de compte, où la base du commerce, on disait que le profit se faisait à l'achat et pas à la vente. Et donc, c'est en achetant qu'il fallait déjà être sûr de gagner. Et donc, cette ingénierie financière américaine qui serait venue avec un nouveau mandat, une nouvelle façon de penser, non, on va acheter cher parce qu'on sait qu'on va vendre encore plus cher. Qui est un petit peu souvent la logique de pas mal d'acteurs du private equity, qui disent nous savons que nous achetons cher, mais nous savons aussi que nous allons vendre encore plus cher. Et alors là-dessus, David Calfon, si vous voulez bien
Ben,
développer.
je pense que globalement, là, ce que vous venez de décrire, c'est une appétence au risque qui est extrêmement différente entre nos deux continents. Bon, ça ne surprendra pas nos auditeurs, hein. Je pense qu'il n'y a qu'à voir le pourcentage d'épargne investi en actions côté américain et le montant d'épargne investi en livret réglementé à capital garanti côté européen. Et on voit bien déjà comment l'écart se fait finalement dès le plus jeune âge. Oui, c'est deux perspectives différentes. C'est des niveaux de confiance, de rêve et d'optimisme. Mais c'est vrai que c'est quand même difficile, en tous les cas, avec la culture et l'éducation qu'on a reçue, de faire totalement fi en disant bah, c'est pas grave, j'achète très cher et c'est pas grave parce que demain, ça sera encore plus cher. Les gérants valeurs de croissance et les gérants actions value ou ceux qui sont un petit peu au milieu comme chez Sanso, où on est plutôt de l'ARP. Voilà, c'est-à-dire qu'on veut de la croissance, mais on aimerait un peu de croissance et pas énormément de croissance. Et en revanche, on n'accepte pas de payer très cher. On aimerait que ça soit un prix raisonnable. Voilà, donc ce sont des perspectives différentes, ce sont des styles différents. Et c'est vrai que par le passé, le point de vue américain était largement vainqueur.
Et je vais un peu vous taquiner, David. Je vais un petit peu vous taquiner. Donc, vous êtes un gérant garde, vous aimez acheter pas trop cher parce que vous anticipez le profit. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a cette différence. Parce que le jour où vous vendrez votre société, vous allez essayer de la vendre très cher. Parce que vous savez que ce sera votre acte final. Donc, alors que vous étiez le gérant qui cherchait à acheter pas cher, donc qui cherchait sur le marché des sociétés un petit peu sous-cotées d'après ce que vous pensez, vous allez chercher à vendre la vôtre un peu surcotée. n'êtes pas fou, vous n'allez pas la vendre 3 fois le prix qu'elle vaut, bien que ça ne vous dérangerait pas spécialement, mais vous allez quand même essayer de la vendre un peu plus cher qu'elle vaut. Et c'est là qu'on a cette réalité de la différence. C'est qu'on ne pense pas pareil quand on est un industriel ou quand on est dans une forme d'industrie à sortir et quand on est quelqu'un qui achète. Et vous, vous achetez pour le compte de vos clients. Donc vous êtes un peu tétanisé en vous disant, je ne veux pas acheter trop
Alors,
cher pour eux.
en fait, attention, hein, on ne dit pas qu'on va acheter pas cher, on dit qu'on va acheter à un prix raisonnable. Hein, c'est la définition de GARP. Prix raisonnable, oui, ça veut dire qu'on n'est pas prêt, en tous les cas, à payer une surcote. Voilà, c'est ça, c'est notre philosophie de gestion. Et ce que l'on essaye de faire dans ce profil-là, c'est d'avoir des valeurs qui sont, ce qu'on appelle nous, des valeurs robustes, c'est-à-dire qui ont un peu de croissance, mais qui ne sont pas non plus totalement surévaluées, de manière à se prémunir un peu des rotations de style et essayer de traverser justement tous ces cycles de marché.
D'accord. David Rainville, une réflexion là-dessus?
Oui, bien sûr. Bon, je touche sur le à prix raisonnable. Je pense que vraiment, ça dépend de qui regarde et qu'est-ce que tu regardes. Pour nous, c'est évident qu'on ne veut pas surpayer. On ne veut pas payer des multiples qui sont fous, mais quelque chose qu'on fait avec assez de discipline chez Sycomore dans le fondtech et juste généralement, on pense vraiment à la croissance, GARP, Growth at a Reasonable Price, mais on essaie d'ajuster pour la qualité de la société pour vraiment voir les avantages compétitifs qu'une compagnie a. Si c'est un monopole dans un secteur aux États-Unis qui ont 85% de part de marché, le marché grandit, croît à 10-15% par année, c'est quelque chose qui nous intéresse et ne nous dérange pas nécessairement d'aller payer 30, 32 fois, 33 fois, 34 fois les bénéfices. Donc, je dirais que pour nous, on veut pas surpayer, mais la qualité de la croissance qu'on achète, des fois, nous force, mais aussi, on est OK avec ça, d'aller payer un multiple qui peut paraître plus élevé que le marché. Par contre, quand on ajuste pour la qualité de la société, de la croissance, des avantages compétitifs, on croit qu'on peut vraiment aller chercher de la bonne performance là-dessus. Sur le côté États-Unis contre Europe, c'est drôle, hein, parce que je suis déménagé en France il y a environ un an. J'ai travaillé à New York avant. J'ai passé la plus grande partie de ma vie adulte aux États-Unis. Donc, je connais un petit peu la culture américaine et oui, il y a le demain, il y a l'idée de ne pas avoir peur de perdre, de prendre des risques parce qu'on voit le futur et on veut y participer. C'est sûr qu'il y a ça. Il y a aussi un facteur assez technique sur les marchés US que vous avez touché un petit peu plus tôt avec les flux passifs, les ETF, les Exchange Trading Funds aux États-Unis, qui dans le fond ne sont pas très sensibles aux valos. Ils font juste acheter ce que l'indice, ce que le S&P 500, ce que le Nasdaq est. Donc ça, c'est 15 à 20 % des volumes à tous les jours ou en moyenne par mois. Donc eux, ils ne sont pas sensibles aux valos. OK. Donc, tu as déjà 20 % du marché qui s'en fout un peu. Après ça, tu as, dans les dernières années, depuis le début de Robinhood, la gamification, donc on a tourné vraiment investir dans des actifs, dans des stocks, dans des sociétés, comme presque un petit peu un jeu. Et eux aussi font 15-20 % du flux qu'on voit des volumes qui sont traités à tous les jours aux États-Unis. Puis c'est encore plus gros dans la tech. Donc, quand on pense à peut-être un tiers du marché à 40 % du marché qui n'est pas vraiment sensible au valo et à ce que tu fais aujourd'hui, ça crée un marché qui va définitivement être un petit peu surenchéri comparé en Europe. Et dernièrement, je parlerai des fonds qu'on appelle les multi-managers, comme des Citadel, des Baliasny et tout ça, qui, eux, ils achètent un stock, mais aussi ils en vendent un. Donc, ils sont longs un stock qui coûte cher, avec un multiple qui est haut, mais aussi ils sont short un stock qui est multiple haut. Donc, eux, la valo absolue ne leur dérange pas tant que ça. Ce qui est important pour eux, c'est la différence entre la valo de ce qu'ils sont longs et la valo de ce qu'ils sont short. Donc, ça aussi, c'est un acteur de marché qui est très gros aux États-Unis. C'est 30 % des encours des hedge funds aux États-Unis. Puis, ils traitent beaucoup plus et ils ont un effet de levier de 5, 6, 7 fois sur leurs encours. Donc, eux
Bon ben,
aussi,
je vais vous arrêter, David, parce que si je vous laisse
allez-y.
continuer, la conclusion, ça va être on s'en fout de la valo, de toute façon, on achète et puis c'est tout. Et d'ailleurs, et c'est là-dessus qu'on va conclure avant de passer sur l'émission Sycomore, c'est d'ailleurs là-dessus, que je vais vous demander de conclure, David. Donc, moi, je disais ça en vous taquinant. Lavallo, on s'en fout, il suffit d'acheter. Mais j'ai lu il n'y a pas si longtemps un article extrêmement intéressant dans Les Échos qui dit à peu près le contraire, avec beaucoup moins d'ironie, mais qui dit en fin de compte, sur les marchés, il suffisait d'être présent il y a 20 ans et d'y rester, mais on aurait pu aussi être présent il y a 40 ans et y rester, puisque l'histoire des marchés, c'est l'histoire de notre économie, et donc c'est une hausse. Et en fin de compte, bon, la fin de l'article, je ne vais pas vous relire tout l'article, qui disait que le succès des ETF, il est lié à ça. Il est lié au fait que si on reste très longtemps et qu'on veut juste surfer sur la vague, on n'a plus besoin d'un gérant. Et que l'intérêt du gérant, c'est pour un certain temps. C'est-à-dire, c'est se proximiser d'une certaine personne pour un certain temps en relation avec ce qu'on croit de ce petit futur qui est devant nous. Donc, je vous laisse conclure là-dessus, David Calfon, et après, on passe à notre spécial Sycomore.
Effectivement, le sens des marchés actions, c'est la hausse, puisque c'est effectivement c'est le sens naturel. Maintenant, c'est une hausse qui est raisonnée. Je crois que si on prend des statistiques très longues, on arrive sur des rendements convergents de 7 à 8% par an. Et donc, ça tient compte, mais avec une volatilité élevée. Hein, ça, c'est 7-8% par an, c'est le rendement moyen des actions sur le très long terme. Et en revanche, pour avoir ces 7-8% par an, il faut avoir supporté des années où on peut faire moins 20, moins 15, et également des années où on va en contrepartie faire plus 20, plus 25. Voilà, donc effectivement, le long terme, les manières sur les investissements actions restent la clé à la création de valeur. Je ne peux que souscrire à cette vue.
Voilà. OK. Merci beaucoup. Merci beaucoup, David Calfon, de nous avoir encore accompagnés avec ce point marché passionnant. Merci à nos invités d'avoir répondu. Et maintenant, c'est le moment dédié à Sycomore. Donc, ce que je vous propose, Nicolas Penel, commencez par nous expliquer un peu qui est Sycomore, que fait Sycomore, et ensuite on passera à la partie de David, où on se concentrera sur son fonds, Sycomore Sustainable Tech.
Bonjour
C'est à vous.
Bernard, merci pour l'invitation. Alors effectivement, donc Sycomore, société de gestion entrepreneuriale créée en 2001, rachetée en partie par Generali en 2019. Donc aujourd'hui, nous ne sommes plus indépendants, mais nous restons totalement autonomes dans notre gestion, dans notre politique interne et dans notre stratégie. Sycomore, c'est 70 collaborateurs. C'est 8 milliards d'encours et on est un des pionniers dans l'ISR, donc dans l'investissement socialement responsable, et on est aujourd'hui le leader en France parmi toutes les grosses sociétés de gestion. Et donc, 70 collaborateurs, un tiers des équipes s'occupent est dédié à la gestion, et nous avons une équipe de 7 analystes ESG, dont une des équipes les plus étoffées de la place. On est également première société de gestion labellisée B Corp, donc qui signifie Benefit Corporation. Ça se traduit par une démarche de progrès avec en prenant en compte des normes environnementales et sociales. On a également une gamme chez Sycomore qui va un petit peu plus intéresser nos auditeurs d'une quinzaine de fonds à laquelle on retrouve et des fonds européens et des fonds globaux et donc très majoritairement pondérés aux États-Unis, hein, comme vous l'avez entendu tout à l'heure. On a également une gamme obligataire avec deux fonds dont un qui a fait le succès l'année dernière de Sycomore, qui est un fonds daté, Sequoia 2026. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les fonds qu'on a l'habitude, enfin les nouvelles stratégies qu'on a l'habitude de lancer au niveau des actions, s'orientent plutôt pour des stratégies globales, notamment sur la tech, un fonds qui a été lancé il n'y a pas très longtemps, il y a de cela 3 ans, et qui a été repris en gestion par David Rainville. Et donc, c'est Sycomore Sustainable Tech.
Alors, ben voilà, justement, on a la passation qui est toute faite. On démarre maintenant avec vous, David. Donc, sur la présentation de ce fonds, alors, une des spécificités de ce fonds, si j'ai bien compris, c'est vous n'avez pas les GAFA. Alors, j'aimerais bien savoir d'abord si c'est vrai, si c'est vraiment bien compris. En plus, ce que je voudrais savoir, c'est pourquoi avoir fait ce choix. Et ma troisième question, c'est est-ce que ce choix est inscrit dans le marbre? Et quand bien même demain, vous penserez que c'est intelligent d'acheter du Facebook, enfin du Meta, vous ne l'achèterez pas parce que vous avez dit je ne veux pas des GAFA.
Oui, bon, en fait, oui, la rumeur est vraie. On est un fonds sans GAFA, non seulement sans GAFA, mais seulement deux des sept magnifiques. Donc, on est investi dans Nvidia et Microsoft. Ça, c'est des compagnies qui passent nos filtres ESG. C'est des compagnies avec qui on fait beaucoup d'engagement. On discute sur Nvidia et Microsoft particulièrement sur l'IA, l'IA éthique, comment on peut développer des algorithmes qui sont éthiques. C'est très ça fait partie très des nouvelles du jour. Donc c'est des engagements qu'on a avec ces compagnies-là depuis quelques années maintenant. Donc oui, un fonds sans GAFA. Est-ce que c'est écrit dans le ciment? Est-ce que c'est écrit pour toujours? La réponse, c'est si les compagnies, si les sociétés décident de changer certaines de leurs pratiques, ils décident d'engager avec nous d'une manière positive. Et effectivement, certaines de ces compagnies-là pourraient revenir dans notre univers d'investissement. Pour l'instant, ils ne le sont pas. Je peux donner quelques exemples. Pourquoi que Apple, par exemple, ne fait pas partie de l'univers d'investissement, et c'est lié aux relations des travailleurs en Chine, travail forcé avec leurs sous-traitants qui manufacturent leur téléphone iPhone, right? Même si Apple a plein de bonnes choses qu'ils font qui sont un net positif pour la société, il y a certaines pratiques d'entreprise dans leur chaîne de valeur qui ne sont pas acceptables. Donc oui, Apple ne fait pas partie. Si un jour on a de l'engagement avec Apple et Apple nous annonce qu'ils changent de sous-traitant dans leur chaîne de valeur pour construire ces smartphones-là, ces iPhones-là, bon oui, on aura une discussion à l'interne pour voir si en fait, oui, Apple pourrait faire partie de notre univers. Ça ne veut pas nécessairement dire, par contre, que d'un côté financier, d'un côté de performance, on est intéressé par les parts ou les actions de Apple, parce que pour l'instant, il ne fait pas partie de nos plans d'un côté ESG, mais aussi d'un côté financier qui sont très, très bien ensemble.
Bien que vous ne puissiez pas les acheter pour des raisons de la construction du fonds, ces acteurs, ils sont tellement importants que vous ne pouvez pas vous empêcher de les suivre. Donc, vous devez bien sûr les suivre, puisque de leur performance va rejaillir de la performance ou de la surperformance sur d'autres acteurs.
Oh, ah oui, tout à fait. On peut penser en termes d'absolu. Si Amazon, par exemple, qui est aussi un GAFA qui ne fait pas partie de notre fonds, ils ont une division de cloud, de Amazon Web Services, et ça, c'est un des indicateurs les plus importants pour les dépenses d'entreprise sur la tech. Donc, Microsoft a un produit qui compétitionne avec Amazon Web Services, qui s'appelle Microsoft Azure. Donc, oui, on passe beaucoup de temps sur le côté business, sur le côté société de l'entreprise, de ces valeurs-là, parce que ils sont, comme vous avez dit, ils sont tellement grands, ils sont tellement gros et tellement importants que ça nous permet d'être plus informés, plus intelligents sur nos valeurs dans lesquelles on est investi. Et ça a aussi des impacts sur notre indice de référence. Par exemple, l'année dernière, Apple était 22% de notre indice de référence, le MSCI All Country World Index Information Technology. Donc, quand Apple fait bien, bon, c'est difficile pour nous. On doit aller trouver de la perf sur d'autres valeurs. Ce qu'on était capable de faire l'année dernière avec 41% de performance en 2023, malgré ne pas avoir les GAFA, les Magnificent Seven, qui étaient en hausse de plus que 100% en 2023. Donc, c'est quelque chose qu'on est fier, mais c'est quelque chose aussi qu'on doit gérer assez activement, parce que ça crée des biais dans le portfolio qui sont assez différents de l'indice de référence.
D'accord. Alors, votre fonds, si on essaye de le qualifier géographiquement, comment est-ce qu'il se situe géographiquement? Et ensuite, si on essaye de le qualifier à notre premier débat de l'émission, small, mid, big, all cap, comment ça se passe?
Bien sûr. Bon, on est très US, on est très Amérique du Nord. Environ 78% de notre fonds est en Amérique du Nord. Notre indice de référence est environ à 80%. On a des surpondérations, par exemple, à Taïwan, où je suis présentement. J'ai un voyage à faire pour visiter des boîtes de semi-conducteurs. Donc, on a une surpondération sur Taïwan qui est environ 8% du fonds, un petit peu de Japon. Et le reste, c'est de l'Europe. On a les grandes valeurs de capitalisation d'Europe que vous connaissez comme ASML, par exemple, et des plus petites valeurs de semi-conducteurs comme Besi, semi-conducteurs dans le portfolio qui sont un petit plus small cap. Donc, de termes de capi, juste généralement du fonds, si on regarde contre un fonds Europe, on dirait qu'on est très méga cap, hein, parce que les capitalisations aux États-Unis sont assez grandes, assez hautes. Si on compare un fonds américain, un fonds monde, on est plus. Comment je séparais le portfolio? On a environ 40% qui est au-dessus de 250 milliards de capitalisation, ce qu'on considère des grandes capis, pas nécessairement des méga caps, mais des grandes capis. Et 60% du portfolio qui est en dessous de ça. Et des 40%, on a environ un tiers. Donc 33% du fonds qui est en dessous de 50 millions, qu'on considère vraiment des vrais mid-cap et des vrais small-cap. On a des positions qui ont 5 milliards de capitalisation en US dollars, mais aussi on a Microsoft qui est à plusieurs milliers de milliards dans le portfolio. Donc, on fait un petit peu de tout. Comment on positionne le portfolio, vraiment, c'est on investit dans les compagnies qui sont aujourd'hui les leaders de leur marché, dans des grands marchés, qui sont des grandes parts de marché, des marchés qui croient. À des taux de croissance qui sont assez intéressants. Et en deuxième partie, on est investi dans ces plus petites valeurs qui seront les leaders de demain. Donc, ils sont des leaders dans les marchés qui sont un petit peu plus niches aujourd'hui, qui deviendront, d'après nous, le standard du futur quand on parle au cloud computing, quand on pense aux applications de software, l'infrastructure de l'IA aujourd'hui et des trucs comme ça. Donc, on a un portfolio vraiment leader d'aujourd'hui dans les bons marchés et les leaders de demain qu'on croit qu'ils deviendront le standard de la tech d'entreprise dans les 10 à 20 prochaines années.
D'accord. Alors, quelques questions un petit peu sur le fond pour voir où on est. Est-ce que, comme aujourd'hui en Europe, où on a vraiment un peu ces petites et moyennes valeurs qui sont à la panne, est-ce qu'aujourd'hui, ce petit bout de portefeuille que vous avez sur des petites et moyennes valeurs ralentit la progression du portefeuille ou non? Votre sélection permet que ça ne ralentisse pas la progression du portefeuille? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, c'est quelle est votre rentabilité depuis le début de l'année? Et si on la compare au Nasdaq, puisque vous êtes un fonds tech et qu'on revient un peu à nos indices, où en êtes-vous juste par rapport au Nasdaq qui, lui, se moque si c'est petit ou grand, puisqu'on prend tout ce qu'il y a et on a une moyenne? Et ma troisième question sur le fond, comme vous êtes essentiellement Amérique, est-ce que pour un investisseur européen, le dollar est couvert? Ou est-ce que le dollar va lui donner un peu plus ou un peu moins suivant les années?
C'est des bonnes questions. Je commence avec peut-être la potentielle négative performance des petites moyennes valeurs dans le portfolio. En fait, non. Ce qu'on est quand même très heureux avec la performance, par exemple, de 2023, c'est qu'on était capable d'aller chercher quand même 41% de performance sans vraiment avoir les Magnificent Seven qui étaient en hausse de plus de 100%. Donc, on était capable de trouver des valeurs en dessous de 50 milliards de capitalisation, certaines à 5, certaines à 15, certaines à 30, qui ont été capables de faire de la super bonne perte dans les 12 et maintenant, je dirais 15 derniers mois, si on veut aller au début de 2023. Donc, notre picking a été assez bon sur ça et on espère que ça continue. Ça continue depuis le début de l'année. En effet, on est environ à 18% sur la part R, qui est la part qui est la plus commune pour les gens qui écoutent l'émission aujourd'hui. Donc, 18%, le Nasdaq, je le donne en euros parce que 18% de notre fonds est en euros. Le Nasdaq est environ à 9% depuis le début de l'année. Donc, on est presque le double de Nasdaq. Donc, dans ça, il y a l'effet de certains Magnificent Seven qui ne performent pas trop bien. Mais ce qui est encore plus important et la plus grosse partie de cette contribution de la perf et de la surperformance qu'on fait depuis le début de l'année, c'était notre surpondération au côté semi-conducteur et notre stock picking côté logiciel. Donc, si on pense au fond aujourd'hui, on a environ 40%, 45% semi-conducteurs et hardware. Et 40%, 45% sur les logiciels. Donc, environ 40 valeurs dans le portfolio. Donc, sur 80, 85% du portfolio concentré sur ces deux secteurs-là, qui pour nous, pour l'instant, donnent la plus belle performance à venir, d'après nous, parce que justement, on croit qu'on est dans un bas cycliquement sur les dépenses de la tech, qu'ils reviennent tranquillement en 2024 et plus fortement en 2025.
D'accord. Et donc, juste le fond, il est couvert ou il n'est pas couvert?
Oui, sur le dollar. Donc, il n'est pas couvert. C'est quelque
Il n'est
chose
pas couvert.
On discute activement. Si on vient avec une conviction forte sur un euro plus fort, on couvrira en partie, pas totalement. Mais il n'est pas couvert. On a aussi une part couverte s'il y a des investisseurs qui sont intéressés. Mais pour l'instant, il n'est pas couvert. Donc, si le dollar est fort, c'est positif pour le fonds. Et s'il est faible, bon, ça a un impact sur la performance.
D'accord. Alors, vous nous avez expliqué que dans les small et mid cap, vous essayez de détecter les leaders de demain. Donc, pour devenir un leader de demain, il faut du temps. Vous avez donc dans ces valeurs une politique d'accompagnement avec un taux de rotation extrêmement faible et vous gardez longtemps en attendant que ça pousse. J'ai presque envie de dire que ça pousse tout seul. Donc, là, vous n'êtes même pas jardinier, vous surveillez juste que la plante monte comme vous avez prévu et que ce leader de demain, parce qu'il y a quand même un problème dans la technologie qu'avec demain, c'est que personne n'est sûr du lendemain et ça peut vite changer et une technologie qui était promise à être le leader de demain, ben, ça peut devenir la technologie la plus abandonnée et des fois on voit des choses ressortir de nulle part. Qui étaient voués aux poubelles de la technologie, qui redeviennent des leaders. Donc, cette recherche du leader de demain, d'ailleurs, est-ce qu'elle est aussi réelle que ça? Donc, est-ce que vous avez des valeurs dans votre portefeuille depuis 2, 3, 4 ans, le temps qui deviennent leaders? Et quel est votre taux de rotation sur ces petites et moyennes valeurs?
Oui, tout à fait. C'est des très bonnes questions parce qu'en effet, la technologie change vite et une nouvelle technologie peut faire ou détruire une compagnie, un compétiteur. Donc, c'est très important de rester proche de tout ça. Donc, le taux de rotation, c'est simple. On est des investisseurs à long terme. Tous les investissements qu'on fait, ils sont évalués sur une base de 5 ans. Maintenant, si la valeur fait très bien ou on réalise qu'on n'avait pas raison, ça se pourrait que la duration d'un investissement soit plus court, mais vraiment tout est évalué sur 5 ans en termes de potentiel performance de chaque valeur. Et donc, si on prend sur 5 ans, en général, on devrait avoir un taux de changement de valeur d'environ 20% par année. On veut être en dessous de ça parce que ce qu'on aime, c'est voir des compagnies que sur 5 ans, on a raison et on croit qu'on peut avoir raison sur les 5 ans d'après. Donc là, on verra. Ça fait seulement un an que je gère ce fonds-là, mais c'est vraiment l'idée d'aller chercher des pépites entre 5 et 30 milliards de capitalisation aux États-Unis qui, pour nous, et certains éléments qui nous prouvent que ça peut être vraiment les compagnies, les leaders de demain. Je peux vous donner un exemple. C'est une compagnie qui s'appelle MongoDB aux États-Unis et eux, ils ont des forte part de marché dans une partie niche du marché dans lequel il traite. Donc 70-80% part de marché. Et on croit que le marché des bases de données nouvelle génération, et c'est ce qu'ils font, deviendra une plus grosse partie du marché des databases, des bases de données que Oracle aujourd'hui est le leader dedans. Donc on est investi dans MongoDB. On ne fait pas de l'accompagnement nécessairement en disant aux compagnies comme un venture capital ou un private equity ferait, en disant vous devriez faire ça. Ce qu'on fait comme suivi, par contre, c'est qu'on fait beaucoup de discussions avec les compagnies. On leur parle 4 à 5 fois par année, chaque compagnie. On fait beaucoup de recherches de marché. Donc, on parle à leurs compétiteurs, on parle à des anciens employés, on parle à des gens qui utilisent la technologie. Et on voyage, on va voir les compagnies aux États-Unis. Là, aujourd'hui, on est en Asie pour avoir un petit peu plus de conviction sur le cycle de semi-conducteurs et d'IA et tout ça. Donc, on espère, quand on trouve une pépite, ne jamais avoir besoin de la vendre. Si on la vend, c'est soit que on n'avait pas raison ou la valo est devenue tellement insoutenable qu'on doit laisser faire. Mais pour l'instant, on n'a pas vendu aucune de ces compagnies-là depuis que j'ai joint il y a environ un an.
D'accord. Alors, les gérants, ils ont tous un défaut. Ils sont toujours positifs, et ils ont tous le même. Ils sont toujours positifs sur leur fonds. Et en fin de compte, quand on y réfléchit bien, ce n'est pas un défaut des gérants, c'est un défaut de l'être humain. Puisqu'en fin de compte, tous les êtres humains qui ont des enfants sont positifs sur leurs enfants, et quand ils commencent à devenir négatifs, c'est qu'ils rentrent dans la dépression. Et pour le gérant, c'est la même chose. Quand il commence à devenir négatif sur son propre fonds, c'est qu'il rentre dans la dépression et qu'il se dit, il n'y a plus rien à faire, je me suis trompé de métier, je me suis trompé de vie, j'aurais dû faire autre chose. Voilà, tatati, tatati, tatati. Mais ce défaut quand même de toujours penser qu'on est dans le juste, on est dans le vrai, on est dans le bien, c'est quelque chose qu'on a tous. Donc je vais vous poser une question. Et pourquoi je vous ai dit ça avant, c'est juste pour vous faire prendre conscience de ce défaut qui nous guette à tous et voir comment on va répondre. Vous avez une énorme partie de la place aujourd'hui qui vous dit que même si on n'est pas en bulle sur les valeurs technologiques, on est en train de s'y approcher, il faut faire attention, il y a des choses qui sont complètement décorrélées, il y a des signes. Alors, c'est vrai, je me rappellerai toujours Greenspan, parce que Greenspan, c'est ma jeunesse, quand il a parlé de l'exubérance irrationnelle des marchés, je crois qu'il a fallu 4 ans avant qu'il baisse. Donc, on peut se dire, on s'approche d'une bulle et avoir tout le temps de rester, de gagner de l'argent, de faire du profit avant que ça ait de la baisse. Vous, de l'autre côté, il y a quelques minutes, vous nous avez dit que les dépenses d'investissement dans la technologie de l'ensemble du monde industriel va encore nettement augmenter, va nettement être à la hausse. Et donc ça, si vous vous trompez pas, ça et je pense que vous vous trompez pas puisque ça c'est des analyses que font d'autres que vous reprenez, ça préfigure une potentielle hausse. Comment est-ce que vous naviguez à l'intérieur de ces deux extrêmes, donc la bulle qui pourrait nous voir arriver à moins 20, moins 25, je ne veux pas dire en 10 minutes, mais ça va tellement vite presque, et ce fondamental de la très forte augmentation ou de l'augmentation des dépenses en technologie qui va créer de la valeur et créer du profit sur le secteur sur lequel vous travaillez.
Oui, bon, tout ça, c'est, pour moi, c'est une question de construction de portfolio et de savoir prendre des profits et faire attention justement quand il y a des mouvements comme de 20% en 2 mois et demi, comme on a eu entre début janvier et milieu février. C'est des trucs qui sont pas nécessairement confortables pour un être humain. C'est cool, on voit nos compagnies qu'on aime, qu'on investit dans, bien faire. Par contre, faut toujours faire attention. Donc, la question de la bulle est une qu'on discute souvent. Je suis d'accord avec les autres gens que vous parlez. On n'est pas là encore. Comme je vous disais, comme on parlait plus tôt, le multiple d'NVIDIA est en baisse de 40% depuis l'année dernière. On s'attendait à 30 milliards de revenus pour NVIDIA il y a un an. Maintenant, on s'attend à presque 110 milliards. Nous, on croit que ça va être un petit peu plus haut que ça. Donc, les multiples sont pas fous. Par contre, si NVIDIA double encore, et j'utilise double, ça peut être moins, ça peut être plus, mais juste pour utiliser un exemple, là on pourra, pour moi, là on pourra discuter de oh, est-ce qu'il y a des comportements qui sont irrationnels. Pour l'instant, les mouvements d'NVIDIA, le mouvement de certaines valeurs directement liées à l'IA sont rationnels et sont liés à la forte demande et des changements de chiffre de consensus de 30 à 110 milliards en dedans de 12 mois. C'est des trucs qu'on n'a jamais vus, même pour des grosses valeurs comme Microsoft, Oracle et Google, Amazon et tout ça. Donc, c'est vraiment la première fois que ça arrive. On garde les yeux sur l'horizon. On veut s'assurer que s'il y a une bulle, on ne se fera pas prendre dedans. Mais pour l'instant, on croit que les valos sont encore OK et le cycle de révision de hausse en hausse des bénéfices par action sera très fort, on croit, en 2024-2025. Donc, la valo, par défaut, sera plus basse dans un an si les stocks ne bougent pas. Donc, pour l'instant, on est OK. Si on se reparle dans 6 mois certaines valeurs qui sont pas profitables ou qui te disent que c'est des compagnies d'IA, mais dans le fond, ils n'en font pas vraiment d'IA, qui se vendent à 32 fois le revenu, pas les bénéfices. Là, on parlera d'une bulle. Mais si on regarde la tech globale aujourd'hui, comparée même à la bulle de COVID, on pourrait appeler la bulle, on pourrait appeler le 2020-2021 la bulle de COVID aussi, on est encore loin, il y a encore beaucoup de place. Donc, pour l'instant, les fondamentaux sont forts. Si les fondamentaux plutôt se tourne, bon là on sera un peu plus inquiet. Mais pour l'instant, les fondamentaux sont forts et la valo est OK.
Eh ben c'est super. C'est sur ces très belles paroles qu'on va se quitter. Donc un fonds qui a de l'avenir. On est loin de la bulle. Un fonds qui mélange les small et les big, qui cherche les leaders de demain avec peu de rotation. Eh ben écoutez, on vous souhaite pour le reste de l'année le même succès que vous avez eu depuis le début de l'année et puis pour les années à venir le même succès que vous avez eu l'an passé depuis votre arrivée. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ce fut un plaisir pour cette émission et on se réjouit déjà de préparer la nouvelle émission. Bonsoir à tous. Merci. Au revoir.